N'oubliez pas de vous allumer ce matin. Les voyants sont au vert. Vous êtes bien là? Un grand merci pour tous ces magnifiques et merveilleux chants qui nous prédisposent, qui prédisposent nos cœurs à l'adorer d'abord et puis aussi à entrer dans sa présence. Quel privilège, quelle grâce nous avons dimanche après dimanche de pouvoir plonger nos regards dans la loi parfaite, nous dit l'Écriture. Si vous enlevez toutes les lois qui existent dans ce monde, c'est le chaos absolu. Imaginez qu'on enlève quelques lois ici dans cette ville, et les choses vont devenir encore pires que maintenant ou qu'avant. Et la loi de Dieu, la parole de Dieu est là pour nous donner un fil conducteur dans nos vies. Et chaque dimanche, on prend le temps de la méditation. Et vous savez que depuis quelque temps, parce que l'Église fluctue hein, d'un dimanche à l'autre, il y a les vacances, il y a la période d'été, il y a la période du mois d'octobre, donc on n'est pas forcément là tous ensemble tous les dimanches. Alors j'aimerais vous rappeler que nous avons un site web et que vous pouvez aller cliquer sur « Message » et écouter le message que vous n'avez pas entendu le dimanche précédent parce que vous étiez peut-être en vacances. C'est d'autant plus que nous sommes entrés depuis quelque temps dans le thème qu'on a appelé « Opération Galilée », qui doit nous permettre en fait de suivre d'une manière tellement plus naturelle Jésus. En Galilée, dans cette zone, dans cet endroit d'Israël, où Jésus a eu une telle liberté d'action, il allait de lieu, en faisant le bien, et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment agir, aussi en nous libérant, en faisant de nous des hommes et des femmes libres en lui, libérés de l'esprit religieux qu'il a si souvent rencontré à Jérusalem, qu'il a empêché en fait d'accomplir pleinement son ministère. Et j'aimerais vraiment que l'Église puisse suivre Jésus dans cette relation naturelle, vivante, édifiante. Alors n'hésitez pas donc à cliquer sur le site web de l'Église et à écouter les messages précédents. Ce matin, je vous invite à lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, verset 49. J'aimerais m'arrêter un moment ce matin sur le dynamisme de la parole de Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ce matin la puissance qu'il peut y avoir dans un mot que Dieu nous donne. Il est dit que le Verbe s'est fait chair, Dieu est Verbe, Dieu est parole. Et quand Dieu utilise une parole, il l'utilise à bon escient. Il l'utilise parce que c'est une parole puissante et vivante. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 49, nous lisons « Car je n'ai point parlé de moi-même, dit Jésus, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » On a l'impression par là que Jésus était un peu comme une mécanique. On mettait à l'intérieur une cassette et puis il partageait ce qu'il avait entendu auprès du Père. Pas du tout. Jésus était tellement uni au Père, était tellement un avec le Père, que ce qu'il entendait de la part du Père, il n'avait qu'une envie, c'est de le transmettre aux gens qu'il allait rencontrer durant sa journée, durant tout son ministère. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, nous lisons ceci. « Car la parole de Dieu est vivante. » Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, car la parole de Dieu est vivante. Est-ce que vous êtes vivant ce matin? Est-ce que vous pouvez donner des signes de votre... Voilà, vous êtes bien vivant, n'est-ce pas? Eh bien, la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Et un dernier passage qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme une parole d'homme, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. L'Église primitive, je me permets de me répéter un petit peu d'un message à l'autre pour que ceux qui n'étaient pas là se disent « Ah, c'est à peu près ça qui a été annoncé ou partagé le dimanche précédent. » Mais l'Église primitive a été un terrain favorable pour accueillir l'œuvre de Dieu. Nous avons vu que nous étions comparés à des champs de Dieu, à des terrains dans lesquels Dieu veut accomplir des choses extraordinaires. Il veut ensemencer nos vies pour qu'elles portent du fruit à sa gloire. Et l'Église primitive avait marqué, impacté la société de son temps, puisqu'il est dit qu'en quelques mois ou quelques années, ils avaient rempli Jérusalem de leur enseignement. L'Église primitive a pris au sérieux ce champ dans lequel Dieu voulait agir. Et on avait vu qu'une terre est faite de quatre composants différents, en fait, et qu'on voit dans Actes 2, 42, que l'Église vivait de l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et des prières. Voilà le terrain dans lequel Dieu a pu agir d'une manière extraordinaire. Parce que l'Église prenait au sérieux ce terrain-là. Elle a mis l'accent en disant, pour nous, ce qui est important, ce sont ces quatre terrains-là. Nous allons persévérer dans la communion fraternelle. Nous allons persévérer dans les prières. Nous allons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous allons persévérer dans la fraction du pain. Et Dieu, en voyant ce terrain favorable, a pu accomplir des choses extraordinaires. Alors, on s'est arrêté depuis quelque temps sur le terrain de la ou des prières, parce qu'il est dit qu'il persévérait dans les prières. Alors, Ritza, il y a quelques mois en arrière, nous a abondamment enseigné sur ce qu'est la prière de louange, d'adoration, d'action de grâce. Nicolas a partagé il y a quelques semaines en arrière l'importance de la prière de la foi, en vue de la guérison notamment. Et puis, dimanche passé, j'ai touché au thème de la prière de confession qui nous amène à la repentance. Et on voit que Dieu a préparé d'avance des mots dans lesquels il nous demande d'entrer. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, parce qu'en entrant dans ces mots, on entre dans le dynamisme de ces mots, dans la vie de ces mots, et on les vit. On a vu que tout a commencé par la repentance. Ta vie chrétienne a commencé par la repentance. À un moment donné de ton existence, tu as pris conscience que tu étais un être pécheur, c'est-à-dire qui manquait la cible que Dieu avait placée devant toi. Tu as confessé cela, tu t'es repenti et tu as été pardonné de tes péchés. Et à partir de ce moment-là, une conviction s'est inscrite dans ton cœur. Tu es devenu un enfant de Dieu. Il n'y a pas d'autre porte d'entrée. Jésus a payé le prix pour qu'il y ait la porte d'entrée de la repentance, la porte d'entrée de la confession. Et si j'entre par cette porte, alors je pourrai prolonger la marche, je pourrai aller de l'avant dans la vie nouvelle que Jésus m'offre. L'appel à la repentance traverse toute l'Écriture. C'est extraordinaire de voir que Dieu ne change pas, ce n'est pas des modes passagères en Dieu. Dans le monde, on a l'impression que voilà la porte, entre là-dedans et puis tu vas vivre des expériences extraordinaires. Puis ça ne dure pas longtemps. Puis on cherche une autre porte, une autre entrée, un autre chemin, une autre expérience. Mais Dieu, dans sa parole, nous donne des fondements éternels, des fondements qui demeurent, qui sont stables. Et la repentance en est un. Dans l'évangile de Marc, Jésus a commencé son ministère en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mais c'est une annonce extraordinaire, c'est révolutionnaire. Se dire, quoi ? Je peux m'approcher du royaume de Dieu ? Ou le royaume de Dieu s'approche de moi si je me repens ? C'est pas très compliqué, n'est-ce pas ? Et puis dans les Actes des Apôtres, quand l'Église a commencé son ministère, après la prédication de Pierre, où le cœur des gens qui étaient là a été vivement touché, ces hommes ont dit, mais hommes frères, que devons-nous faire ? Mais Pierre n'a pas été compliqué, il a dit, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Plus simple, on ne peut pas. Mais nos petites têtes à nous, notre petite intelligence, notre nature religieuse complique tellement les choses simples de Dieu qu'on ne comprend plus la pensée de Dieu. Et on tord cette pensée et on en enlève la substance à ces mots. Moi, je suis, comme je l'ai dit dimanche passé, émerveillé de voir en même temps, c'est vrai, la gravité du péché qui nous a séparés de Dieu et dont on voit les conséquences tous les jours dans ce monde, dans nos propres vies, dans cette ville, sur cette terre. Mais aussi émerveillé par la simplicité avec laquelle Dieu nous dit, mais reviens, reviens, reviens à la vie. Et il nous donne pour cela des mots. Pendant toutes les vacances, j'ai eu le privilège d'avoir ma femme à côté de moi et le GPS en face de moi. Dès que possible, faites demi-tour. Vous avez déjà entendu ça dans votre GPS? Parfois, j'avais l'impression que c'est Dieu qui me parlait. Non. Mais c'est ça. Dieu nous parle et il nous dit, mais dès que possible, fais demi-tour. Viens à la repentance, reconnais ton état. Pas pour te faire écraser, pas pour te faire condamner, pas pour te faire juger, mais pour t'amener à la vie. Est-ce que vous êtes capable de trouver quelque chose de plus simple que cela? Si vous avez la formule, dites-le moi tout de suite. Ce sera une nouvelle bonne nouvelle dans ce monde, mais on n'en a pas besoin. Parce que tout est là. Dieu reste simple en face de choses très compliquées. Et moi, je le bénis pour cela, parce qu'on est tellement bête, humainement parlant, qu'on a besoin de choses simples. Alors, si on sait s'humilier, si on sait confesser, on va aussi savoir se repentir. Nous avons vu dans l'exemple de Caïn, un exemple que nous avons pris aussi dimanche passé, que Dieu voulait enseigner Caïn. Caïn s'approche de Dieu avec son sacrifice à lui. Et Dieu lui dit, mais Caïn, tu ne peux pas t'approcher de moi, qui suis un Dieu saint, avec ton kilo de poro, tes pommes de terre et tes tomates. Tu ne peux pas. Je suis saint, c'est moi qui donne la manière de faire. Aie la simplicité et l'humilité de comprendre ce que j'ai envie de te dire. Et là, Caïn aurait pu vivre un grand moment de son expérience humaine. Il aurait pu s'humilier devant Dieu, dire, « Oh Seigneur, je te demande pardon, je me suis trompé. J'ai vu Abel, il a amené un agneau de son troupeau. » C'est vrai, le sang coulait annonçant déjà la venue de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je me suis trompé, je te demande pardon. Alors montre-moi la voie. Et vous croyez que Dieu ne lui aurait pas montré la voie? Bien sûr qu'il l'aurait fait. Et il l'aurait amené à la vie. Mais non, Caïn endurcit son cœur. C'est la seule chose qu'il est capable de faire. Et combien de fois, moi-même, toi-même peut-être, face à une parole de Dieu claire et précise, ben plutôt que d'y entrer et de me laisser transporter par cette parole dans la vie, ah ben non, j'endurcis mon cœur. Ou je la mets de côté, ben, ce n'est pas tellement important pour moi, hein, qui suis une personne si importante. Non. Et il est dit de Caïn qu'il sortit de devant l'Éternel. Alors que Dieu voulait lui donner le moyen d'entrer dans sa présence et de vivre sa présence, le texte nous dit qu'il est sorti de devant l'Éternel. Donc quand Dieu nous dit quelque chose, c'est qu'il nous prend au sérieux. Il sait qu'il est en face de lui des êtres intelligents qui sont capables de réfléchir. Des êtres qui sont capables de comprendre quelque chose. Et c'est pourquoi il te dit, écoute. Mais est-ce que je prends le temps d'écouter Dieu? Le propre de l'humain, de ce que la parole de Dieu appelle la nature humaine, la nature charnelle, la nature qui est séparée de cette présence de Dieu, car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu, a vraiment le chic pour tordre le sens des mots. Pas plus tard qu'il y a quelques jours en arrière, je faisais une visite, et on a parlé du mot baptême. Ça, je le rencontre à chaque fois qu'on fait une préparation de baptême. Tout le monde a entendu le mot baptême. Tout le monde croit savoir ce que le mot baptême signifie. Et quand je commence à poser deux ou trois questions, c'est le blackout. Vous voyez comme c'est subtil. On croit savoir, mais on ne sait pas. Et parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas entrer dans le mot. Et on ne peut pas laisser le mot nous conduire vers ce pourquoi il a été donné. Alors, si tu as un tant soit peu intelligent, prends le temps d'écouter, mais sérieusement. Pas le matin, entre deux tartines puis le café, lire un verset puis repartir au travail. On a un tel privilège, en tant qu'être humain, d'avoir été illuminé dans notre cœur, dans notre être intérieur, pour comprendre cette parole. Il est dit que le Seigneur nous a ouvert l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il y a là-dedans des trésors cachés, des richesses enfouies. Donc, lorsque Dieu utilise un mot, moi je vais à la rencontre de ce mot. Moi je veux savoir ce que ce mot signifie vraiment. Et on peut bénir le Seigneur pour tous les ouvrages qui existent, pour les gens très intelligents qui ont fait des recherches très approfondies et qui peuvent vous expliquer ce qu'est le sens étymologique d'un mot. Pas besoin d'avoir fait 10 ans d'université pour cela. Ils l'ont déjà fait pour nous. Donc on peut y aller. Alors nous, on a le chic de tordre ou de revêtir les mots d'autre chose que ce qu'ils veulent dire. Puis on a l'impression que il n'y a pas de résultat. Or, cette personne me dit, je me suis fait baptiser, mais je n'ai pas compris ce que j'ai fait. C'est un peu grave, hein? Alors, s'il est un mot, dans la parole de Dieu, qui est un maître mot, c'est celui de la repentance. Est-ce que je sais ce que signifie la repentance? Est-ce que je sais où va me conduire la repentance? C'est comme un wagonnet qui passe à côté de moi. Je peux regarder et dire, ouh, le beau wagonnet, puis il est parti. Il va où? Mais je peux aussi dire, je me place dans ce wagonnet, puis on va voir où ça va aller. Et la repentance, c'est un peu ça. C'est un mot dans lequel j'entre à un moment donné. Alors on l'a vidé de sa substance, on l'a revêtu de religiosité. Alors là, j'aimerais juger personne ou quelconque église à la limite, mais c'est quand même incroyable de voir ce qu'on a fait, par exemple, de la confession de la repentance. Il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés par l'expérience de la confession repentance. Il y a beaucoup de gens qui ont été amenés à entrer dans un endroit qui n'était déjà pas très sympathique, à se retrouver tout d'un coup derrière un grillage, et puis on a tiré un petit rideau. Et puis là, dans ce lieu, je dois confesser mes péchés. Moi, j'ai discuté avec pas mal de gens dans leur expérience, qui a été la leur avant. Et puis je disais, mais c'était traumatisant. Mais je ne pouvais rien dire. J'étais complètement bloqué, j'étais hypnotisé. Puis je voyais ce grillage devant moi, puis je percevais plus ou moins quelqu'un de l'autre côté. Mais c'était terrible. Et Dieu pourtant a donné ce mot à la chrétienté, à ses fils et ses filles, à ceux qu'il aime et qui lui appartiennent. Ce mot devrait nous conduire à la vie. Et au lieu de cela, il nous fait sortir de Dieu, de devant Dieu. Je passe à côté. Ça ne résonne pas en moi. Je ne comprends pas ce sens. Je ne comprends pas ce que cela signifie en vérité. Dans Acte 11, il est dit au verset 18, « Dieu a accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. » Vous vous rendez compte? Afin qu'ils aient la vie. Alors, pourquoi l'avoir dépouillé, ce mot? Pourquoi avoir mis sur ce mot une connotation aussi péjorative? Allez essayer de parler à votre voisin de repentance, vous verrez la réaction qu'il va avoir. S'il comprenait le sens de ce mot, il vous dirait merci, j'ai compris, ou bien viens avec moi, j'ai besoin de vivre un moment de repentance peut-être, tu es à mes côtés, tu seras là. Lorsqu'on redynamise ce mot, c'est ce que j'aimerais essayer de faire ce matin. Lorsqu'on lui redonne son sens premier, il devient une parole vivante, une parole efficace. Elle est envoyée pour agir et pour guérir. Il envoie sa parole et il est guéri. Tout d'un coup, je commence de comprendre un tant soit peu l'importance que Dieu met sur le seul mot repentance. Et est-ce que vous savez que la repentance est un don de Dieu? Est-ce que vous le saviez? Moi, j'aime bien recevoir des dons ou des cadeaux, des choses qui me surprennent. Quand quelqu'un vient, moi, il me dit, ben, tiens, je t'ai amené ça. Ça me fait plaisir. Je me dis, waouh, je ne le mérite pas, mais c'est un signe de son amitié, de son amour, je ne sais pas. Dieu, parce qu'il nous aime, nous donne des choses de valeur. Il est dit que la repentance est un don en Actes 5:31 pour donner à Israël la repentance ou la capacité de se repentir. Il a accordé aux païens la repentance afin qu'ils vivent. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Pour Dieu, la repentance a un sens. Il a une puissance. La repentance est un mot qui se vit, pas seulement qui se dit. Alors on a déjà posé la question dimanche passé, quelle est la place que je fais dans ma propre vie à la repentance? Et si j'ai compris quel était le moyen par lequel Dieu veut nous permettre de progresser, parce que là aussi est-ce que je prends conscience que ce Père qui m'a adopté en Jésus-Christ, qui m'a reçu comme un fils ou une fille, veut voir chacun de ses enfants croître à tous égards. Il veut voir chacun de ses enfants être comblé de toutes les bénédictions spirituelles. Il veut voir chacun de ses enfants être rempli jusqu'à toute la plénitude. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Ce n'est pas réservé à une petite élite. Et quand je prends conscience de cela, là où j'en suis, je peux commencer d'aller à la rencontre de ces dons et de ce don de la repentance. Nous avons vu dimanche passé qu'à un moment donné, dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 lettres qui sont écrites à 7 églises différentes, n'est-ce pas? Et sur les 7 églises, il y en a 2 qui s'en tirent bien. C'est-à-dire que ce qu'ils vivent est conforme à la volonté de Dieu. C'est un champ prolifique. Un champ dans lequel Dieu peut accomplir des choses extraordinaires. Et puis les 5 autres églises, eh bien Dieu en même temps pose un regard positif sur ce qui est bien vécu et juste, mais il ose poser un regard correctif sur ce qui est faux dans ce qu'ils vivent. Et à chaque fois, il est dit « Repens-toi ». Moi, je trouve extraordinaire. En même temps, ces textes nous montrent qu'une église peut vivre juste, être un champ de Dieu agréable à Dieu. Et puis, on voit que les églises qui dérapent dans certains domaines ont la possibilité de revenir au centre de la volonté de Dieu. Donc, Dieu ne bloque pas les choses. C'est nous qui bloquons souvent. C'est nous qui partons dans des impasses ou des labyrinthes sans fin. Dieu nous dit, voilà, le regard que je pose sur ta vie. Moi, j'apprécie beaucoup ceci, 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 cela. Mais, ce que j'ai contre toi, ou ce que je peux te reprocher, ou ce qui n'est pas encore juste, c'est ça. Et là, on se retrouve dans la peau de Caïn. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dis, mais, Seigneur, merci de me montrer ces réalités-là. Merci de venir pour m'enseigner et de me donner le mot qui va me permettre de sortir de cette situation pour aller un peu plus loin avec toi. Alors on a le choix. Encore une fois, on est des êtres libres. Et je peux endurcir mon cœur. Je peux avoir le visage tout triste. Et je peux sortir de devant l'Éternel. Alors on sait quand on sort de devant l'Éternel, mais on ne sait pas quand c'est qu'on va revenir. Donc, ces 7 églises, 5 d'entre elles reçoivent la clé. Repens-toi et tu vas pouvoir continuer. Et je vais de nouveau pouvoir te dire, ça c'est bien, continue dans ce domaine, vas-y, évolue, crois, grandis, sois rempli jusqu'à toute la plénitude. Et pour terminer, j'aimerais souligner le fait que la repentance, c'est l'antidote par excellence contre les œuvres de Satan. Alors là aussi, aujourd'hui, vous allez dans le monde qui nous entoure, vous dites « Satan existe oh. ». Hein, vous allez voir toutes sortes de visages devant vous, prendre toutes sortes de formes. Voilà, la parole de Dieu nous dit, oui, Satan existe. Et il est présent, alors c'est un mystère, c'est une réalité auquel on doit faire face. Et vous savez que lorsque Jésus, après son baptême, a été conduit par l'Esprit au désert, il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Et le diable n'a pas réussi dans ses entreprises. Alléluia. Jésus a été vainqueur. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Juste après ça, la phrase qui suit, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Alors mes amis, s'il l'a fait avec Jésus, imaginez ce qu'il va faire avec nous. Et des moments favorables, il y en a tellement dans nos vies, n'est-ce pas ? C'est si facile aujourd'hui de tomber dans la tentation. Si facile. Et si difficile de se retenir. Dieu sait d'où nous avons été tirés, n'est-ce pas ? Il sait la nature humaine et charnelle qui a été la nôtre. Et il sait combien c'est difficile de vivre ces transformations, de vivre par l'Esprit, de marcher selon l'Esprit. Il le sait. Et c'est pourquoi il veut être à nos côtés. Et c'est pourquoi il dira à chacune des églises de l'Apocalypse, « Celui qui vaincra, il nous veut vainqueurs. » Il a dit à Caïn, « Mais Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. » On ne peut pas être plus explicite. Dieu est là dans nos vies pour nous rendre plus que vainqueurs. Alors, la confession, la repentance, c'est la voie royale. C'est la voie des enfants de Dieu. On sait ce qu'on peut faire. Celui qui ne connaît pas Dieu ne sait pas. Mais nous, on le sait. Et la repentance est la meilleure antidote contre les attaques de l'ennemi. Je parlais il y a quelque temps en arrière avec quelqu'un qui avait fait des choses très graves. Tu sais, en tant que pasteur, on entend parfois des choses qui vous prennent aux tripes, hein. Mais on reste humble parce qu'on a en face de soi un être humain qui a peut-être été tenté dans ces moments-là, ou certainement tenté, et qui n'a pas su résister à la tentation. Et quand on voit les conséquences que cela peut avoir dans la vie d'une personne, c'est quelque chose de terrible. Et cette personne me disait, mais quand je fais ces choses, je cherche un moment d'absolu. Parce qu'on peut faire des choses terribles et puis en même temps goûter à quelque chose qui est de l'ordre de, je ne sais pas, ça nous fait du bien. C'est terrible de dire ça. Mais quelque part, ça nous fait du bien. Et on recherche ce moment-là, sachant pertinemment qu'on est en train de pécher, qu'on est tombé dans la tentation, mais ça fait du bien. Et j'écoutais cet homme et à un moment donné, je lui dis, mais écoute, moi je veux te dire quelque chose. On est des hommes les deux, hein. C'est un homme. On a les mêmes tentations. Mais sache une chose, quand tu résistes à la tentation, quand tu ne tombes pas dans la tentation, quand tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ devant la tentation, ça te produit aussi quelque chose dans l'estomac. Ah, waouh, j'ai vaincu la tentation. Je ne me suis pas laissé entraîner dans la tentation à ce moment-là. J'ai résisté au mal. J'ai même résisté au diable et il fuira loin de vous, nous dit l'Écriture. Eh bien ça, je peux vous dire que ça fait aussi du glouglou dans l'estomac. Et ça, on a envie d'aller le chercher. Comme on le cherchait dans le péché avant, qui nous amenait qu'à la mort, on le cherche en Christ maintenant. Seigneur, tu vois le combat commencer. Ça y est, les hostilités sont là. Oh, je suis là devant mon écran. Je presse sur le bouton et je vois des... Non, Seigneur, ah, puis c'est le combat qui commence, le bon combat de la foi. Et paf, j'arrête. Alléluia, je suis vainqueur. Je ne suis pas tombé dans la tentation. Toi, va te faire voir ailleurs, mais pas vers moi, parce que je suis un enfant de Dieu. Et là, c'est un moment glorieux. Enfin, moi, j'espère que vous l'avez vécu, ce moment-là. Et on a envie de le revivre, parce que tous les jours, on a des tentations. Et tous les jours, on peut être vainqueur contre la tentation. Et là, commence la repentance. Dis, Seigneur, pourtant je me suis fait baptiser, pourtant ma vieille nature, elle est au fond du lac de Neuchâtel. Mais qu'est-ce qu'elle a envie de revenir, hein ? Je ne sais pas si je l'ai noyée avec un caleçon de bain, et puis un tuba et puis un masque, mais elle revient continuellement. Mais le Seigneur te dit, mais domine sur lui. Domine sur elle. Je suis là pour ça. Alors bien sûr que c'est un combat, puis nous on n'aime pas combattre, hein, surtout quand on est assis sur notre chaise de bureau, tranquille, puis on est là, une grosse journée, difficile, puis on se laisse aller à faire n'importe quoi. Il y a des moments favorables dans ta vie, comme dans la mienne. Et Satan ne se fera pas défaut de passer à côté. Mais sache que tu peux être vainqueur. Et là commence ce travail en profondeur de la repentance. Et là je commence, je réalise la profondeur du péché dans ma vie. Je réalise que ma nature humaine est absolument incapable d'entrer dans les objectifs de Dieu. Et je m'humilie devant Dieu et je pleure devant Dieu. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, c'en est terminé. Avec la tentation d'avant, hein. Il y en a peut-être une autre qui va venir dans quelques semaines ou quelques mois ou quelques heures. Mais là, c'en est terminé. J'ai appris à être vainqueur. Et quand on apprend à être vainqueur, on n'a plus envie d'être des défaits. On n'a plus envie de perdre. Et c'est cette mentalité que Dieu veut créer en nous, la mentalité de Christ, qui n'a pas péché tout au long de son existence. Alors je termine. La repentance est quelque chose de personnel, mais c'est aussi quelque chose de communautaire. Et ça peut toucher à la vie même de l'Église, à l'interne, mais ça peut toucher aussi tout le monde qui nous entoure. Et on voit dans l'histoire biblique, et on voit dans l'histoire contemporaine, que chaque fois qu'une église a dit « Seigneur, je t'offre le terrain de la repentance. » Nous sommes une église qui sommes prêts à nous humilier pour nous-mêmes, pour notre église, mais aussi pour le monde et ce qui se passe dans ce monde autour de nous. Là, Dieu peut nous surprendre. Tous les réveils religieux ont commencé par des individus qui ont pris au sérieux, persévéré dans la repentance. Qui ont dit, mais nous, on ne peut pas changer ce monde, on ne peut pas changer notre église en tant que telle, je ne peux pas me changer moi-même. Mais Seigneur, je t'offre ce terrain de la repentance. Viens, viens faire l'extraordinaire dans un terrain ordinaire. Et là, Dieu peut agir de manière surprenante. Alors j'aimerais t'inviter, nous inviter à réfléchir à la question. Moi souvent je me dis, mais comment on peut servir cette ville de La Chaux-de-Fonds? Une ville de près de 30 000 habitants, avec combien de pourcents de chrétiens? Combien de pourcents de croyants? Alors que tous sont chrétiens de naissance. Voilà. J'ai reçu un email, on aimerait vivre une nouvelle crèche vivante. Et là, on a invité toutes les églises à venir. Ce n'est pas seulement notre église, cette fois, qui aimerait. Et là, le retour, c'est « Ah non, nous, on ne peut pas. On n'a pas assez de monde. » Attendez, il n'y a pas assez de monde, mais vous avez 17 000 membres dans votre église. Non, on ne trouve pas. On ne trouve personne. Je dis « Mais attends, qu'est-ce qui se passe ?» De l'autre côté, on dit « Oui, mais on n'a que quelques personnes. » Et puis, « Ouais, ce n'est pas nos habitudes. » Puis, « Non, nous, on ne peut pas parce qu'on a autre chose. » Je me dis, Seigneur, alors, je ne juge pas, hein, ce n'est pas une critique, mais si l'église de réveil devenait le lieu de la repentance, je ne sais pas comment Dieu va nous y conduire, mais je vous le dis encore une fois, je ne vais pas encore le répéter 100 000 fois, si on persévère dans ces choses, quelque chose va se passer. C'est impossible autrement, parce que quand Dieu voit ce terrain, il n'a qu'une envie, c'est de descendre sur ce terrain et de faire son œuvre à lui. S'il ne trouve pas le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va ailleurs. Ah ouais? Et moi, je rêve que l'église de réveil soit ce terrain-là. Mais on peut l'être que si on le décide. Que si d'un commun accord, on dit, mais oui, mais pourquoi pas? Or, ça ne doit pas se faire tous les jours, tous les soirs, toutes les semaines, mais quand on se réunit, comme ça s'est fait dans le livre des Actes des Apôtres, ils se sont réunis et ils ont dit, Seigneur, voilà, on t'offre ce terrain ensemble. Alors, on va distribuer des petites feuilles parce qu'on doit s'exercer. Moi, j'aime bien parce qu'on ne passe pas de rien à tout. On passe de rien pas à pas. On comprend, on saisit, on apprend à mettre en pratique, on en voit les premières conséquences, puis on a envie de continuer. Alors, c'est un petit exercice par rapport à ce que les églises de l'Apocalypse ont vécu. Et puis je vous demanderai simplement de vous tenir vous face à face avec Dieu, de prendre ce moment et de vous laisser interpeller par Dieu. Si le regard de Dieu se pose sur moi aujourd'hui, comme il s'est posé sur les églises d'Apocalypse, qu'est-ce que ça donne? Ça serait quand même intéressant de voir quel est le résultat, déjà rien que pour ta vie à toi. Alors imaginez pour une église ou bien pour une ville. Voilà, merci de distribuer cela. Et je vais encore prier maintenant pour ce temps de Sainte-Cène aussi qui va venir. Seigneur, j'aimerais te rendre grâce ce matin pour le mot repentance. Parce qu'il fait partie de ton vocabulaire. Et parce que tu ne l'as pas révélé à une élite, à des gens au-dessus de la moyenne ou à des saints, mais tu l'as révélé à des pécheurs que nous sommes. Et Seigneur, je veux te demander pardon ce matin pour la manière dont nous utilisons tes mots, qui sont des éléments vivants, il y a la vie dans un mot. Et combien de fois, Seigneur, on a mis de côté ce mot, on l'a ignoré, on lui a mis un manteau religieux, on l'a enlevé de sa substance. Alors Seigneur, aide-nous vraiment à vivre ce mot, personnellement, en Église, que tu puisses trouver ce terrain dans nos vies, dans lequel tu vas pouvoir agir, à la gloire de ton nom. Amen.
Vous savez, on demande souvent à Dieu de parler à l'Église. Et les paroles que nous entendons, les serviteurs de Dieu devraient un jour rendre des comptes. Tous les serviteurs de Dieu vont un jour rendre des comptes. Et les paroles qu'ils donnent, c'est l'Esprit qui vient taper sur leur cœur. C'est l'Esprit Saint qui tape sur leur vie. C'est ça les paroles qu'ils donnent. Il n'y a pas que les pasteurs qui vont rendre des comptes. Nous aussi. Nous aussi. Nous sommes responsables de ce que nous entendons. Nous en sommes responsables. Et quand le Saint-Esprit insiste sur des choses comme ça, je pense que c'est important. Parce que nous faisons partie de celui qui, de ceux qui entendent l'Esprit Saint, qui entendent la parole de Dieu. Et j'aimerais vous demander de revenir à votre petit papier. Seigneur, je demande tout simplement que tu montres à mon cœur, que tu montres à cette église où est-ce qu'elle en est par rapport à son premier amour. Je sais que c'est une église où le réveil est venu. Et je sais que c'est à cause de ce réveil que tu as embrasé nos cœurs et qu'on en est là aujourd'hui. Père, tout simplement, moi, je demande que tu visites mon cœur, que tu visites mon église, que tu visites le groupe de louanges. Montre-toi par ton Esprit Saint. Visite nos cœurs, visite nos vies. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours aujourd'hui. Parle à notre esprit, où est-ce qu'on en est exactement? Seigneur, que notre église ne fasse pas partie de ceux qui sont laissés parce qu'on est refroidi, de ceux qui ne peuvent pas y aller parce qu'on a abandonné le premier amour. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Je demande pardon et je demande que tu te révèles, que tu parles à nos cœurs. Donne-moi d'être responsable de ma vie. Donne-moi d'être responsable devant toi. Et parle à mon cœur ce matin. Nous allons distribuer la scène en même temps. Il y a beaucoup de choses en même temps, mais je pense que le Seigneur est capable de parler à nos cœurs, capable de parler à nos vies, de révéler toutes choses. Et voilà l'occasion que de tout ce message, voilà l'occasion de tout ce qui a été dit aujourd'hui, l'occasion que le Père nous donne de se réconcilier avec lui, d'être réconcilié avec lui et de retrouver aussi le premier amour. Moi, ce que je vais vous demander, c'est que on va distribuer la scène et si quelqu'un a envie de marquer officiellement, Seigneur, moi, je veux retrouver mon premier amour devant toi. Moi, je veux le retrouver. Peut-être que tu l'as déjà, il n'y a pas de problème. Merci parce que le Seigneur t'a gardé dans le premier amour. Mais si quelqu'un a envie de marquer pendant qu'on distribue la Sainte Cène, vous pouvez vous mettre debout et signifier à Dieu, et signifier au monde, signifier, Seigneur, moi je veux changer, je veux retrouver mon premier amour, je veux entrer dans ça. Et si le Seigneur pousse votre cœur à prendre cette décision ce matin, ne regardez pas à gauche ni à droite. Merci Seigneur parce que tu as payé le prix fort pour qu'on ne soit pas loin de toi. Je loue ton nom pour cette occasion ce matin. Seigneur, moi je mets ma vie devant toi. Père, moi je n'aimerais pas être retenu ici-bas. J'aimerais pas abandonner. J'aimerais pas me laisser aller ou envahir par le péché ou être prisonnier. Père, ce matin, je viens devant toi. J'élève mes mains vers toi à te dire, Seigneur, moi, je veux retrouver mon premier amour. Je veux retrouver l'amour, ma passion pour Jésus. ma passion pour le Seigneur, la passion de mon cœur pour toi. Ce que tu as mis dès le début dans ma vie. Seigneur, je veux refuser toute forme de religiosité, de conformité, de regard de gens. Je ne le veux pas dans ma vie. Seigneur, moi je viens devant toi et touche mon cœur, change ma vie. Pardonne-moi, change mon cœur, change ma vie, viens. Change les choses. Seigneur, moi je veux faire partie de ce que tu fais. Je veux être là aujourd'hui, Seigneur. Je ne veux pas regarder dans le passé, mais être là aujourd'hui, dans ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu vas faire dans cette ville, ce que tu vas faire dans cette église, ce que tu vas faire dans les vies. Seigneur, viens, change mon cœur, change ma vie. Le Seigneur est en train de visiter encore des cœurs. Le Seigneur est en train de faire des œuvres dans la vie des personnes maintenant. Ce serait vraiment trop déplacé de passer à la suite et de ne pas regarder ce que Dieu fait. Le Seigneur travaille nos vies et tout simplement, si vous êtes là, et que vous pensez que ça ne vous concerne pas, commencez à prier. Commencez à prier, dites merci au Seigneur pour ses œuvres. Commencez à vraiment remercier le Seigneur parce qu'il visite sa maison, parce qu'il visite l'Église. En fait, ce que Dieu veut, c'est qu'il n'y a personne d'entre nous soit laissé de côté. Le Seigneur visite encore maintenant alors. Moi, je demanderais encore un instant. Vous pouvez prier pour les frères et sœurs. Vous pouvez prier pour l'Église. Vous pouvez prier pour vos leaders. Vous pouvez prier pour votre famille. Vous pouvez prier pour que vous soyez debout jusqu'au bout. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez notre Dieu. Seigneur, élargis, Seigneur. Élargis, Seigneur, le chemin qui est sous notre pied. Seigneur, le temps est difficile. Tu sais que le monde court à sa perte. Tu sais que Satan fait tout ce qu'il peut aujourd'hui pour que les enfants de Dieu tombent. Seigneur, aujourd'hui, élargis l'espace qui est sous nos pieds. Que personne ne chancelle. Seigneur, garde mes yeux, garde mon cœur, garde ma bouche. Seigneur, aide-moi à tenir ferme ce matin. Aide-moi à tenir ferme pour l'avenir. Seigneur, je te remets le chemin de chacun. Je te remets, Seigneur, le choix dans nos vies. Ce que nous allons faire comme choix demain, je te le remets. Garde nos cœurs, garde nos vies en toi. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous. Amen. Amen. Nous allons demander l'offrande. Je profite juste pour dire que on a fait des annonces par rapport aux besoins financiers de l'Église. Et aux dernières réunions du Conseil, on a constaté que l'Église a entendu. C'est-à-dire que vous avez donné ce qu'il faut par rapport aux charges de l'Église. Alors, j'aimerais vous dire merci. Au nom du Conseil, j'aimerais vous dire merci. Et merci pour votre générosité. Que le Seigneur vous bénisse.